L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion. À midi, c'est en direct et c'est rediffusé à 18h. La Maison de l'agriculture biologique du Finistère est notre partenaire du jour. Vous savez que cette saison, on reçoit les adhérentes et adhérents de la MAB. On met en lumière leurs activités. La plupart du temps, des productions, des transformations alimentaires. Même s'il peut y avoir des plantes textiles bio, comme le lin et le chanvre, ou d'autres productions pour d'autres usages. Ou alors des distributeurs spécialisés, comme les Biocoop. Pour l'instant, on a surtout eu des biscuits, du pain, des yaourts. Aujourd'hui, on boit un coup, avec modération, car il s'agit d'alcool. Qu'en abuser est dangereux pour la santé, vous le savez. Mais c'est une entreprise artisanale vraiment de chez nous. Après la bière de Térénèse, on va encore plus au bout du monde, à Camaret, où Vincent Conseil dirige la distillerie Brumaine, comme brume en breton. Bonjour Vincent.
Bonjour.
Alors déjà, pourquoi est-ce que vous êtes adhérent de la Maison de l'agriculture biologique ?
J'ai pas vraiment eu le choix, c'est mon père qui m'a forcé à y adhérer. Non, je rigole, mais c'est vrai que dans la famille, on était bien dans le bio. Mon père était maraîcher à l'opérette et assez actif dans ce réseau-là, et la MAB, etc. Donc c'était un peu une évidence pour moi, et de toute manière, tout ce que je produis est en bio, donc c'est un engagement. Et d'y adhérer, c'était logique au final, dans un esprit de réseau et de développement de la filière.
Et alors votre parcours justement, vous avez commencé à en parler un peu, vous vous destiniez à la distillerie ou pas ?
Non, pas du tout, j'étais plutôt client avant, mais en fait, avant je travaillais dans le secteur associatif culturel. Du coup, je suis originaire de la région. Et après avoir pas mal bougé dans le cadre des études et du travail, j'ai voulu m'installer sur la presqu'île et trouver un travail un peu plus manuel, en lien avec la terre, on va dire. Et je m'intéressais déjà aux plantes aromatiques, aux plantes sauvages comestibles. Et c'est en faisant le lien par pur hasard avec la transformation d'alcool, la création d'alcool, voir qu'on pouvait utiliser les plantes, les cueillir, etc. C'est là que ça a fait tilt.
C'est le Genépi, la liqueur savoyarde, là, qui vous a donné l'idée, non ?
Et non, même pas. En fait, un jour, je me suis demandé comment on faisait de l'alcool et j'étais pas capable d'y répondre. Et c'est à partir de là qu'en me renseignant, j'ai vu qu'il existait des petites structures, un peu comme les brasseries. Je connaissais les brasseries artisanales, les micro-brasseries. Mais j'avais jamais entendu encore parler des micro-distilleries et je pensais que ça restait assez industriel en fait, la production d'alcool. Et c'est vraiment en découvrant que ça pouvait aussi être sur des petites unités à taille humaine que je me suis dit que c'était exactement au même moment où je cherchais à me reconvertir, trouver un métier manuel. Donc je me suis renseigné et en fait j'ai repéré une petite distillerie qui propose des formations sur la pointe du Raz, donc la distillerie Moby Dick en fait à Plogoff.
Oui, qu'est-ce qu'ils font par exemple?
Ils font du gin, du pastis, whisky, des liqueurs pareil en utilisant des plantes qu'ils cultivent. Et donc voilà, j'ai contacté pour m'inscrire à une formation et c'était parti. À partir de là, ça allait très vite, on va dire.
Et vous avez fait par exemple toute la formation ici et des stages ailleurs ou comment vous avez fait
Ouais, en fait j'ai commencé avec cette formation de 3 jours donc pour vraiment apprendre les bases autour de la création d'une micro-distillerie, etc. J'ai complété avec une autre formation dans le Languedoc, donc dans le sud, pour avoir une autre approche, mais c'était assez, c'était pareil, 3 jours, ça permettait de rencontrer du monde, de se faire un réseau, rencontrer d'autres personnes qui sont en création, ou qui viennent de créer une distillerie. Et après, j'ai visité beaucoup de distilleries. Faut vraiment essayer de se créer des contacts, parce que les formations sont assez basiques. Donc une fois qu'on se retrouve tout seul, là, il faut se débrouiller, et c'est pas mal d'avoir gardé des contacts. Pour les questions pratico-pratiques, il y a énormément aussi de règlements. C'est un secteur qui est très réglementé. Il y a plus de travail administratif du fait qu'on soit en lien avec les douanes aussi, donc c'est assez particulier.
Ah oui, parce que c'est de l'alcool en fait, c'est ça?
C'est ça, c'est l'alcool. Donc du coup, il y a les droits d'accise à récupérer. Donc c'est
C'est une sorte de TVA supplémentaire.
C'est les taxes sur l'alcool en fait, comme le tabac et l'alcool. C'est en fait donc sont les douanes qui récupèrent cet argent. Donc comme il y a un enjeu
même
pour
l'État.
Même quand
on va en France, quoi, c'est ça.
Ah ouais. Chaque litre d'alcool pur est enregistré en fait, et dès que c'est vendu, il y a une partie en fait du produit de la vente qui part chaque mois aux douanes et donc à l'État. Donc c'est du coup, vu qu'il y a vraiment un enjeu financier, et bah c'est très contrôlé. Et chaque entrée sortie d'alcool au centilitre est contrôlée et on paye une taxe dessus.
Et donc il y a pas de formation de grande, enfin d'école de distillerie ou qui
non,
durerait
c'est
genre
ça
un
qui
an,
est c'est assez dingue en fait. Il y a pas de, alors autant pour être pâtissier un CAP obligatoirement on peut
il pourrait y avoir un CAP de distillerie,
alors
quand même.
Autant pour la distillation, pourtant c'est quand même on produit un alcool, enfin un produit qui a des facteurs potentiellement dangereux. On peut pas faire n'importe quoi, mais pour le coup on peut s'installer sans se former. Donc il existe des formations assez informelles comme j'ai fait, c'est très pratico-pratique. Et il y a un centre aussi dans le secteur, dans le Cognac là, qui est un peu plus, mais ce sont des formations un peu plus institutionnalisées avec des modules, mais il y a pas plus en fait en France actuellement. Donc
vous savez ce qu'il vous reste à faire alors quand vous en aurez. Et alors, faites-nous visiter, puisque là on est en radio et puis on est en plus en studio. Faites-nous visiter la distillerie, donc il y a Camaret, la distillerie Brumaine. Ah oui, juste un petit mot du nom Brumaine, c'est quoi?
Brumaine, ça veut dire brume en breton. Donc c'était un nom que je trouve poétique. Et c'est pas facile de trouver un nom breton qui sonne pas trop agressif, on va dire. Et là, la brume, c'est tout le champ visuel de la distillation avec les vapeurs de l'alambic. Et après, de la région, la brume vers le pont de Térénèse, pour la brume côtière aussi, qui est très, très présente. Et puis aussi l'état dans lequel on peut être après avoir s'être enivré à la brume intérieure. C'est tout ça, en fait, qui me ramenait à la brume. Et je trouve ça très joli aussi, le paysage quand il y a de la brume.
Alors, à quoi ressemble la distillerie Brumaine à Camaret? Elle est où exactement?
Alors, elle est à l'entrée de la commune, avant d'arriver au bourg. Il y a une zone artisanale. Donc, c'est un hangar assez classique. D'ailleurs, il y avait c'était un charpentier avant. Donc, c'est un hangar artisanal assez grand. Moi, j'ai de la chance. Il y a beaucoup de collègues qui commencent dans leur garage. Moi, j'ai 150 mètres carrés. C'est vraiment c'est du luxe. J'ai une partie distillation avec les alambics. Voilà, donc, j'ai trois alambics aujourd'hui. J'ai un alambic de 500 litres. Un alambic de 80 litres, un alambic de 100 litres, on pourra peut-être
on va
parler,
détailler,
j'imagine.
Oui,
après, il y a une zone pour les macérations, donc ce sont des cuves en inox dans lesquelles macère l'alcool avec les plantes dedans, les plantes et les fruits pour produire les liqueurs. Il y a une zone une sorte de laboratoire. Alors c'est tout en une pièce, hein, mais c'est un peu de la chimie. Il faut des fois manipuler avec il y a des tubes à essai, il faut contrôler le taux d'alcool, donc tout le petit matériel, etc., pour faire les expériences, les transformations. On a ensuite une autre zone avec la fermentation. Donc là, c'est la création d'alcool. En fait, ce sont en ce moment, par exemple, les pommes qui fermentent pour faire du cidre qui sera distillé pour faire du lambic. Donc ce sont des plus grosses cuves, des bidons, c'est là où l'alcool se crée véritablement. Et ensuite, il y a une petite boutique, avec un beau comptoir pour déguster. C'est la meilleure partie pour les gens, en tout cas, la dégustation et la vente sur place.
Et vous êtes tout seul pour tout ça, non?
Je suis tout seul, c'est une toute petite production. Et j'avais oublié aussi le plus important, au final, c'est la matière première, parce qu'autour de la distillerie, j'ai un terrain dans lequel il y a mon jardin de plantes aromatiques, en fait. Donc je cultive des plantes aromatiques pour les utiliser pour aromatiser les alcools, en fait.
Et alors, quel type de produit vous proposez, justement, vous fabriquez?
Alors là, j'ai des liqueurs. Donc la liqueur, c'est un alcool, ce qui le définit, c'est le sucre, c'est un alcool sucré. Donc là, j'ai une dizaine de produits différents, liqueur de verveine, de géranium rosa, de menthe. Je fais aussi une assez originale au sarrasin, sauge, fraise, reine des prés, c'est une plante sauvage aussi. Café, gingembre, voilà. Ça tourne en fonction des disponibilités, des saisons. Je cueille des prunelles aussi, donc les petits fruits sauvages, les mûres aussi pour en faire une liqueur. Donc ça, c'est les alcools qui sont entre 20 et 40 degrés d'alcool, mais plus facile à boire car un peu sucré. Et après, j'ai la partie spiritueux avec le pastis, le gin, donc le lambic, qui est la distillation du cidre, et le whisky.
Ah oui, tout voilà. Ça quand même. Hein.
Voilà, tout ça en très petit lot à chaque fois, des petits lots, petites productions.
Ça, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et tout bio, bien sûr, puisque vous êtes à la maison de la bio.
En effet. Voilà.
Donc vous allez nous dire aussi comment vous fournissez, enfin tous les produits que vous distillez sont des produits qui sont fabriqués par vous ou pas en fait.
Alors tous les produits, non. Dès que c'est possible, en fait, les plants. Alors forcément, la première année, j'ai pas été capable d'avoir ma propre production parce qu'il a fallu que ça pousse. Donc là, c'est là qu'il y a eu tout justement l'histoire du réseau au niveau de la bio qui se met en place. Par exemple, la menthe, j'allais l'accueillir au lycée agricole de Sucigneaux, près de Morlaix. J'ai eu aussi quelques plantes avec Anna qui produit des hydrolats au fou.
C'est quoi des hydrolats ?
Alors c'est une distillation de plantes, mais avec de l'eau. Et en fait, ça permet de produire de huile essentielle et hydrolat. Hydrolat, en fait, c'est le sous-produit de l'huile essentielle, mais ça a les mêmes propriétés et c'est assez peu connu. Mais voilà, donc ce sont les herboristes en fait qui cultivent leurs plantes ou qui les cueillent dans la nature et les distillent avec un alambic comme les alambics que j'utilise. Et ça donne l'huile essentielle et l'hydrolat de la plante. Il y a toutes les propriétés médicinales qui sont concentrées dans cette eau florale, en fait, en quelque sorte.
Ah oui, une eau florale. Mais comme les gens consomment moins d'eau florale, ils peuvent vous la vendre plus facilement, c'est ça C'est ça
Non, alors en fait, des fois, ils ont des surplus, ils cultivent leurs plantes, donc ils ont des surplus de plantes. On utilise les mêmes plantes, en fait, c'est ça qui est marrant. C'est tout ce qui est parfumerie, huile essentielle, distillation d'alcool, c'est le même métier, c'est juste que le produit final diffère, mais on utilise à la base les plantes pour... soit pour aromatiser, donc pour le plaisir gustatif, ou soit pour les vertus des plantes au niveau médicinal. C'est la même, tout ça à la même origine au final. Pour continuer après sur les fournisseurs, j'allais cueillir des fraises à la Roche-Maurice, donc c'est le pépin et la plume, ou à Plougastel, c'est le gars avec la pique. Les pommes, ça a pu être à Daoulas ou à Landévennec, aussi dans des vergers locaux. Ah ouais. La cueillette sauvage, du coup, comme je disais, donc ça c'est dans le coin, graines de fenouil, prunelles, mûres, d'autres plantes un peu moins connues, la reine des prés. Voilà, après bah, le sucre, malheureusement, heureusement,
on n'en produit pas encore dans le Finistère.
On n'en trouve pas. Ouais. Les épices pour le pastis comme la réglisse badiane et pour le gin aussi là c'est un fournisseur
Le gin c'est quoi c'est le
gin c'est une macération distillation de baie de genévrier principalement et ensuite on est totalement libre de faire sa propre recette avec plantes épices ou fruits pour avoir une recette originale propre à soi en fait.
Et genévrier, il y en a pas. Bah si, il y en a. Quand même.
Alors les baies de genévrier, ça pousse en Bretagne, mais c'est pas une région où on en trouve à profusion, donc on va pas pouvoir en cueillir dans la nature. Il faudrait en cultiver, ça prend entre 3 et 5 ans, il me semble, pour obtenir des baies. Donc pour l'instant, je sais qu'il y a des collègues qui viennent de s'installer dans le pays Bigoudin, donc la distillerie Mamengos, qui ont en planté justement, ils aimeraient bien être autonomes. Mais là, soit c'est fournisseur, soit il faut aller dans d'autres régions sud de la France, un peu montagneuses, pour en cueillir en sauvage. Mais donc voilà. Alors il y a aussi le whisky, il y a le malt.
Voilà.
Malt breton, on en trouve, donc ça c'est super. Pour le pastis, j'utilise des graines de fenouil sauvage en complément de la badiane et du réglisse. Donc ça c'est à profusion ici. Et je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc quand c'est possible.
Dans le whisky, il n'y a que du malt, il n'y a pas du houblon
Non, le houblon, on le trouve dans la bière.
Ouais, mais pas dans le whisky.
Exactement.
D'accord. Ouais. Ok. Et donc, il faut, là vous n'allez pas pouvoir y couper, que vous fassiez un peu de vulgarisation scientifique sur qu'est-ce que c'est la distillation, enfin le processus. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des processus différents selon les plantes aussi
Tout à fait. En fait, avec l'alambic, on distille, mais on ne crée pas l'alcool, en fait. L'alcool, il se crée lors de la fermentation.
Alors, faites-nous les étapes, peut-être.
Voilà, c'est
alors.
Ça. Donc, on commence... Tout commence par la fermentation. Donc, il faut une matière première qui a du sucre. Les fruits, c'est pour ça que le plus souvent, on a des alcools de fruits, contiennent en fait tout ce qu'il faut pour créer de l'alcool. Donc, c'est-à-dire le sucre et les levures.
Ah
donc,
oui.
On met dans un récipient fermé hermétiquement nos fruits. Donc, c'est vraiment le principe du cidre ou avec les pommes ou du vin avec les raisins.
Donc pas d'oxygène, enfin.
En fait, c'est privé d'oxygène. Okay. Les levures qui sont naturellement présentes sur la peau des fruits vont se nourrir du sucre et rejeter à la fois du gaz carbonique et de l'alcool. Donc c'est vraiment levure et sucre, si on simplifie, qui crée l'alcool.
Mais même un fruit qui est finalement très peu sucré comme la prunelle, enfin au goût en tout cas, il y a suffisamment de sucre pour que...
Voilà, mais on trouve très peu d'alcool d'eau de vie de prunelle parce qu'il y a très peu de sucre.
Ah
en
ouais,
fait. Donc c'est pour ça que le raisin, la prune, la mirabelle, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. Mais les prunelles, et d'autant plus que les prunelles, il faudrait un temps, c'est très long à cueillir, donc il en faudrait énormément. C'est pour ça qu'on trouve plus ou moins de fruits en fonction de leur du temps que ça prend à cueillir et de leur taux de sucre. Mais en gros, plus il y a de sucre, plus il y a d'alcool, quoi. Ça c'est sûr. Et donc la fermentation va durer entre une semaine et plusieurs mois selon la température ambiante là dans l'endroit où ça fermente.
Donc plus il fait chaud, moins ça dure de temps.
Plus il fait chaud, plus ça va vite.
Ouais. Donc voilà. Finalement, le réchauffement climatique, entre guillemets, ça vous arrange? Bof.
Alors non, parce que la distillation, c'est l'éloge de la lenteur et de la patience.
Mais en gros, ouais, c'est quoi la fourchette de temps d'une fermentation?
C'est un mois, en gros, semaines et un mois et demi. C'est ça, là, par exemple, j'ai mon jus de pomme qui fermente en ce moment. Donc, ça a été pressé il y a quelques jours. Donc dans un mois, ça devrait avoir terminé. Je vais avoir un cidre, du coup.
Ouais,
donc
voilà.
En fait, le jus de pomme s'est transformé en cidre, donc un peu gazeux et alcoolisé, 5-6% d'alcool. Et c'est là que l'alambic et la distillation arrivent. Donc quand on distille, si on veut faire de l'alcool, il faut toujours partir d'un liquide qui est déjà alcoolisé, souvent faiblement alcoolisé.
D'accord.
Donc le vin pour faire le cognac et l'armagnac, les pommes pour faire le calvados et le lambic en Bretagne, les prunes, les poires pour faire un alcool de prune, un alcool de poire, le malt pour faire de la bière qui sera distillée pour faire du whisky.
Donc c'est pareil, il a fermenté le malt.
Exactement,
principe,
sauf que le malt n'a pas de levure, donc on doit rajouter des levures et on doit le brasser avant pour libérer les sucres fermentissibles. Donc là, ça devient un peu plus technique, mais c'est pour ça que les fruits, ça se fait plus simplement.
Ouais.
Le malt, il faut le malt, en fait, c'est une technique de transformation du céréal. Le malt, ça s'appelle de l'orge, du seigle.
Mmh.
Donc, très basiquement, en fait, on le torrifie. On l'humidifie pour que ça germe. Ensuite, on le torrifie. Donc ça, c'est le métier des malteries. C'est encore un autre métier.
Oui, c'est pour ça que vous l'achetez déjà tout torréfié.
Ouais, c'est
ouais,
ça.
Okay.
Il y a très peu d'issieries qui maltent eux-mêmes. Même en Écosse, ça n'existe plus tellement c'est un métier en soi. Ensuite, on reçoit, nous, la graine un peu torréfiée. Et là, c'est le métier du brasseur. Il va le brasser cette matière pour en faire une bière qui, du coup, c'est là qu'on est donc brassé puis fermentation et on obtient une bière à 5-10 degrés d'alcool qui va être distillée pour faire un whisky.
Et juste pour les plantes aromatiques qui ne sont pas très sucrées, c'est pareil. Là, vous rajoutez du sucre
En fait, on ne crée pas d'alcool à partir des plantes, du coup, en effet, parce qu'il y a beaucoup trop peu de sucre. Ça intervient après, en fait. L'alcool est déjà créé et on va aromatiser un alcool avec les plantes aromatiques, en fait.
D'accord.
Voilà, ça.
D'accord. Donc, pour ce qui est, en tout cas, qui passe par l'alambic...
Voilà, donc on revient. Donc on a notre... Je prends l'exemple de la pomme, parce que c'est le produit traditionnel.
Ouais.
J'ai mon cidre à 5-6 degrés d'alcool. Je le mets dans l'alambic. Donc, l'alambic, c'est vraiment une cocotte minute. En cuivre, moi, c'est 100% cuivre. Faut imaginer une grosse cocotte fermée avec un chapeau et reliée à un autre récipient, c'est le refroidisseur. C'est là où on voit le serpentin traditionnel, souvent. C'est l'image de l'alambic, le serpentin.
Ouais, d'accord.
Et donc, du coup, on allume le feu Le cidre commence à bouillir. Et les vapeurs, donc l'eau bout à 100 degrés, on est d'accord, 100 degrés Celsius. L'alcool commence à un peu moins de 80 degrés Celsius. Donc ce qui part, ce qui s'évapore en premier, c'est l'alcool. Mm-hmm. Donc dans un cidre, on a 5% d'alcool et 95% d'eau, basiquement. Donc du coup, on va chercher, en fait, avec la distillation, à concentrer cet alcool, à l'extraire. Et c'est grâce à la distillation.
Donc c'est les vapeurs d'alcool
les
qui
vapeurs,
passent dans
en
le
fait,
tortillon.
Passent, ouais, c'est ça, dans le refroidisseur.
Le refroidisseur.
Dans le, ce que j'ai dit, j'ai un trou de mémoire. Le serpentin, voilà.
Le serpentin, merci.
Le serpentin. Et en fait, le serpentin est entouré d'eau froide, donc les vapeurs arrivent très chaudes et elles se retransforment en liquide. Et c'est pour ça que ça sort sous forme de gouttes ou de petits filets. Et là, c'est l'eau de vie qui sort. Moi, j'utilise des alambics traditionnels à repasse, donc je dois distiller deux fois.
Ah ouais.
Double distillation. Donc, ce que je distille une première fois, j'obtiens...
Vous refaites bouillir.
Quoi. Je le refais distiller, ouais.
Ah
en
ouais.
fait, on appelle ça une cuite, une distillation. Donc ça vient de là, en
ah,
fait.
Ah, d'accord, ça vient de là.
Parce qu'on cuit les fruits, en fait.
Hein, simplement.
Ou une chauffe, ou une cuite, ça dépend des régions. Et donc, du coup, la première distillation, on obtient le brouilly. C'est le brouillon, ça fait 20-30% d'alcool. Et ça, je dois le repasser dans l'alambic, dans une seconde distillation.
Rapidement, pas tout.
Ça peut se faire le lendemain
ou
plusieurs jours après.
Ouais.
Et là, la deuxième distillation, on va séparer en trois parties le produit, donc tête, cœur et queue. On garde que le cœur de chauffe. Les têtes, c'est le méthanol, c'est ce qui rend aveugle, l'alcool frelaté, qui fait mal à la tête quand on en a trop. Donc ça, on l'enlève.
Et
c'est
comment
un
vous faites pour les enlever?
Ça, c'est à l'odeur.
Ah ouais.
Voilà, l'odeur, ça sort en premier. Théoriquement, combien on va obtenir. Et après, le cœur qui concentre le plus d'arômes.
Mmh.
Et les queues, c'est la fin, c'est un peu gras, visqueux. Il y a beaucoup d'arômes, mais c'est peu digeste, en fait.
Oui.
Et donc, on obtient là l'agnole à un peu plus de 70% d'alcool.
Et à ce qu'après, vous rajoutez donc encore d'autres choses éventuellement, quoi.
Voilà, et donc soit on la consomme telle qu'elle. Alors, en 70 degrés d'alcool, plus grand monde,
ça
coince un peu.
Ouais, ouais.
Et donc du coup là, c'est l'étape du réglage ou du mouillage. On rajoute de l'eau pour abaisser le degré d'alcool. Là, on obtient une eau de vie blanche.
Ah.
Donc on peut la boire, la consommer et la commercialiser telle quelle. On peut la faire vieillir dans un fût, comme pour le whisky. Ça va prendre la teinte du fût. On a une eau de vie ambrée.
Et puis ça donnera un goût quand même différent.
Un goût, hein, un petit goût de chêne et le goût de ce qui aura été dans le fût avant. Donc souvent des vins liquoreux ou autres ou du cognac. Ou alors cette eau de vie blanche. C'est la base pour faire des liqueurs ou du gin ou du pastis. Et c'est là qu'interviennent les plantes.
Et alors, vos plantes, vous allez les ajouter, par exemple, à une eau de vie de pomme, enfin, un lambic ou c'est
alors,
ça
Alors, moi,
ou
j'utilise mon eau de vie de pomme. Pour l'instant, j'en ai pas assez, donc j'utilise que pour le lambic. J'utilise une eau de vie de blé assez neutre pour le moment,
ouais,
qui va me servir de base à mon gin, mon pastis et mes liqueurs. Et qui vont et du coup je peux soit alors dans le cadre de mes liqueurs mon pastis c'est une macération donc on met les éléments aromatiques plantes fruits épices dans l'alcool
à l'air libre
que ça s'évapore donc cuve fermée hermétiquement de préférence
mais sans chauffer
voilà
c'est
comme une infusion quand on fait du thé mais l'alcool extrait les molécules aromatiques plus l'effort plus il extrait rapidement. Pas besoin de chauffer, du
coup. Et en combien de temps, à peu près
Alors, il y a certaines plantes, comme le sarrasin, ou pour le pastis, ça peut être juste une semaine. On ne veut pas aller trop vite pour garder de la fraîcheur, le côté fruité. Et plus on laisse le temps, plus on a un côté boisé, on extrait d'autres molécules aromatiques. Donc, c'est vraiment là qu'on joue sur qu'est-ce que va être le produit final. C'est... quelle quantité de végétaux, dans quelle eau de vie et combien de temps.
Ouais, parce que c'est un métier créatif aussi. C'est un métier manuel, intellectuel et créatif.
Ouais, j'aurais pas dit mieux, c'est vraiment...
Ouais.
Ça me définit exactement.
Ouais. Ouais, non mais tout
non,
à fait,
c'est,
on imagine
c'est
bien,
ça, il faut toujours être dans chercher la créativité pour trouver sa propre recette et surtout, il faut expérimenter. Parce que voilà, c'est un peu comme de la cuisine ou de la chimie.
Oui, mais c'est ça, exactement.
Il y a aussi des échecs.
Ah bah ouais, mais
voilà.
Ça. Ouais. Et donc, juste pour avoir une idée du rapport, quel est le tonnage, par exemple, de pommes qu'il faut pour, au final, avoir son lambic
Si vraiment, là, je vais faire basiquement, mais avec une tonne de pommes, on a 600 litres de jus.
Quand même, ouais.
Mmh. Donc on va avoir 5% d'alcool pur là-dedans, donc faut pas que je dise bêtises, ça fait 30 litres en gros de, ouais, d'alcool pur, ouais. Donc à 40 litres à 70 degrés quoi.
Oui. Enfin bon, en même temps on boit pas ça par grosse lampée non plus, donc voilà.
Vaut mieux éviter, ouais. Mais c'est ça, du coup en fait on a des pertes à chaque opération quand on distille, donc faut se dire qu'on concentre quoi un alcool à 5% pour en faire un alcool à 70%, donc forcément on part d'une grosse quantité pour arriver à une petite quantité.
Et donc, juste en 30 secondes, on trouve vos produits donc chez vous, chez Brumaine, à Camaret, d'autres endroits éventuellement, ou en ligne
pour les trouver, par exemple, alors le plus proche, c'est à Camaret, sur les quais, il y a Histoire d'Envie, donc une épicerie fine, quelques restaurants et bars aussi sur la Presqu'île, il y a le comptoir de la Presqu'île, qui est une cave à bière à Crozon. Il y a Enraciné et chez Bacchus à Brest, à Châteaulin, à la cave du Bistronome, et l'auberge du Méné à Saint-Rivoil, resto
oui,
aussi.
Connaît, bien sûr, ouais.
Voilà les points de vente. Il y en a assez peu en fait. Pour le moment, je développe pas trop ça. Je privilégie la vente en direct.
Ouais, super. Merci beaucoup Vincent Conseil.
Avec plaisir.
C'est une interview qu'on peut bien sûr réécouter sans modération sur le site internet de Radio Évasion.